Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Nous allons rendre hommage à un écrivain dont la gloire fut très vite européenne, que Mérimée, Hugo, Balzac, Lamartine reconnurent comme un maître. Tout le monde parlait de Walter Scott. Les écrivains donc, mais aussi les peintres, les musiciens et bien sûr ses lecteurs, ce qui est l'essentiel. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de roman historique français. Sans le Laudanum, il n'y aurait peut-être pas eu Ivanhoé. Et sans le roman Ivanhoé, il n'y aurait pas eu de feuilleton télévisé le mettant en scène et vous n'auriez pas couru en imagination sur un cheval fougueux chantant le générique à tue-tête. Walter Scott, une gloire européenne, par Raymond Lasvergnas, première diffusion sur France Culture le 17 août 1971.
La gloire de Scott, une gloire immédiate et considérable, a été vraiment l'un des phénomènes les plus extraordinaires du XIXe siècle naissant. Elle a éclaté en France en 1820, lorsqu'a été publié Ivanhoé. Jamais un étranger n'avait été à ce point populaire. Il semble que Walter Scott, à l'intérieur des années 1820-1830, ait complètement éclipsé les écrivains français. Déjà en 1819, un tout jeune homme de 17 ans, nommé Victor Hugo, avait pris feu et flamme pour Scott. Walter Scott était un homme de génie. Hugo a lancé le mot le premier en France, mais il a été vite dépassé par des cohortes d'adorateurs éperdus. Avec la publication de Quentin Durward, la renommée de Scott atteint des proportions gigantesques. Hugo, une fois encore, se répand en éloges. Sans doute reproche-t-il à Scott d'avoir, parmi tous les rois de France, retenu le signataire de l'humiliant traité de Péronne. En fait, pour Hugo, il ne s'agit pas seulement de vanter un livre, c'est toute une œuvre qu'il porte au nu. Paris, vous vous en doutez bien, n'a pas le monopole de l'idolâtrie. Berlin en a sa bonne part, si l'on en croit le poète Heine, qui écrit « Tout Berlin parle des ouvrages de Sir Walter Scott. Ils y constituent la couronne virginale du monde des cabinets de lecture. Le roman de Kenilworth, notamment, a fait fureur. » À Paris, qu'il me soit permis de signaler que lorsque Walter Scott y vint en visite en 1826, ce fut de la folie. L'illustre Lamartine rendra hommage à Scott et signalera l'accueil qu'il a reçu dans les familles françaises. Et les hommes de lettres ne sont pas les seuls à revendiquer leur allégeance. Tous les arts suivent le mouvement. Quentin Durward de Gevert, musicien belge, jouait à l'Opéra Comique sur un livret de Cormon et de Michel Carré. Et la même salle, l'Opéra Comique, devait également monter, signé cette fois de Scribe et Aubert, un Lester emprunté au scénario de Kenilworth. Puis, peu après, la fameuse Dame Blanche de Scribe et Boieldieu, inspiré à la fois par le monastère et par Guy Mannering, et dont les couplets ont un charme léger qui ne s'est pas encore évaporé. Plus tard, ce sera Lucie de la Mermoor de Donizetti et La jolie fille de Perthes de Bizet, et j'en passe. Mais à la scène, le triomphe de Scott était également assuré. Un même soir, le Théâtre Français donnait le Louis XI à Péronne, extrait par Mélie Janin de Quentin Durward, et l'Odéon, le même soir, donnait le Labyrinthe de Woodstock. Les arts plastiques ne restaient pas indifférents. Les peintres puisaient leurs thèmes dans sa production. Ainsi, Girodet, avec Ivanhoé et le Templier au haut de la tour, et les sculpteurs avec David d'Angers. Il semble d'ailleurs que ce soit l'année 1827 qui ait marqué le sommet de l'engouement pour les moindres manifestations de la manière de vivre écossaise. Une telle adulation aurait pu être un feu de paille, ce ne fut pas le cas. Elle ne se démentit pas au cours des années qui suivirent, en dépit de la faiblesse croissante des romans que Walter Scott, malade et harcelé par des difficultés financières, publia dans la dernière partie de sa vie. Quand il mourut en 1832, à l'âge de 61 ans, ce fut une consternation. La mort du bon, du divin, de l'adorable Scott, comme fera dire plus tard Eugène Sue à l'une de ses héroïnes, ne devait pas mettre un point final à sa carrière terrestre. Sa gloire allait au contraire s'affirmer plus durablement, puisque à la mémoire de l'homme allait s'adjoindre le rayonnement de l'œuvre. Un rayonnement qui a dépassé tout ce que l'on aurait pu raisonnablement concevoir. Dans sa foulée immédiate, une masse énorme de romans historiques a vu le jour. Dumas, qui a été le plus brillant de ses successeurs, a senti naître en lui sa vocation à l'instant où, ayant lu Ivanhoé, il a eu la sensation, il le dit, que les nuages devant lui se levaient et qu'un vaste horizon se révélait dans toute son ampleur. Si l'exemple de Scott a été à ce point contagieux, c'est qu'il a agi sur une génération d'écrivains à la manière d'un catalyseur. Et Balzac le note dans sa correspondance. « Madame de Staël, remarque-t-il, disait « J'ai besoin d'un premier mot. Pour combien d'auteurs Walter Scott n'a-t-il pas été le premier mot de Madame de Staël ?» Il est l'alter ego de tous ceux qui, tels Hugo et Balzac, tels Vigny et Mérimée, ont discerné dans la parole de Scott le premier mot et ne l'ont plus oublié. Hugo, en écrivant Notre-Dame de Paris, Balzac, en écrivant Les Chouans, Mérimée également, qui, dans sa chronique de Charles IX, devait s'inspirer du modèle proposé par Scott tout en lui donnant un caractère très spécifique, qui fait sans doute de cet ouvrage le chef-d'œuvre du roman historique français. Quant à Alfred de Vigny, il avait tenu, lors de la visite à Paris de Scott en 1826, à aller lui rendre visite dans son appartement de l'hôtel Windsor, afin de lui remettre en personne le texte du Saint-Marc qu'il venait de publier. La dette des écrivains envers Scott ne s'est point limitée à la France. Lorsque l'auteur de Waverley s'est rendu en Italie, Manzoni, qui venait de publier ses Promessi Sposi, les fiancés, a été le voir à Milan et il s'est présenté à Scott comme son disciple. Et Scott lui a dit, très courtoisement, « Alors, monsieur, c'est que les fiancés sont mon meilleur ouvrage. » Or, ce qui est vrai ici du premier roman moderne italien d'importance, l'est également d'œuvres aussi différentes, de ton et d'origine, que les écrits en prose de Pouchkine. Il est clair que Le Nègre de Pierre le Grand, que Dubrovski et que La fille du capitaine doivent beaucoup à Scott. Et en Pologne aussi, les fresques de Sienkiewicz ont témoigné de la survivance de celui que le critique anglais Allen a appelé le créateur du roman européen. La gloire de Scott, cependant, ne saurait être associée trop exclusivement au seul roman historique. Il a été l'un des brandons de l'incendie romantique. Et ici encore, il faut citer Balzac, apostrophant Scott, tu duca et tu maestro. Balzac, qui, dans l'avant-propos de la Comédie humaine, devait écrire « Walter Scott se trouvait en moderne, a élevé le roman à la valeur philosophique de l'histoire Il y a mis l'esprit des anciens temps, il y a réuni à la fois le drame, le dialogue, le portrait, le paysage, la description. Il y a fait entrer le merveilleux et le vrai, ces éléments de l'épopée. Il y a fait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages. En d'autres termes, et paradoxalement, après avoir fait fleurir le romantisme, Scott a préparé l'avènement du réalisme. Sortant de son domaine propre, celui de la fiction, Scott a transformé la conception jusque-là routinière de l'histoire avec une majuscule. Et Balzac, une fois encore, se référant à l'usage qu'allait faire de cette science Augustin, Thierry et plus tard Michelet, n'a pas craint de parler à leur propos, je cite, « d'histoire Walter Scotté ». Respectueux du titre de cette conférence, « Une gloire européenne Walter Scott », j'ai essayé de dresser un bilan de la situation de l'écrivain par rapport aux principaux pays de l'Europe. J'ai été conduit par un souci de clarification à dissocier des nations étrangères le pays natal de l'écrivain, car je crois que l'on ne peut véritablement comprendre ce qu'a représenté et continue de représenter Walter Scott pour les Britanniques que si l'on fait effort sur soi-même pour se débarrasser de cette espèce d'abstraction mythique, de cet objet de légende fatalement gauchi et presque méconnaissable que l'Europe continentale avait fabriqué en partant d'un certain Walter Scott, natif d'Édimbourg, dont l'existence au total fut, à l'exception des soucis d'argent, relativement monotone. Le jeune Walter était venu au monde à un moment où les relations entre l'Écosse et l'Angleterre se ressentaient encore des conflits passés. L'Écosse était restée un pays pauvre. La région frontière d'où était issue la famille de Scott était une terre farouche, vaguement apparentée à l'aristocratique souche des Lord Buccleuch. Il avait surtout des attaches avec une lignée de petits fermiers, typiquement représentatif de la tradition pastorale de la zone frontière. Mais, nous l'avons vu, c'est dans la métropole que va naître le jeune Walter. Son père, un homme de loi méticuleux, procède en tout avec une rigueur calviniste. La mère est d'un naturel plus enjoué. C'est la fille d'un professeur de médecine de l'université locale, une petite femme courtaude, pas très belle, mais excellente maîtresse de maison et qui a la tête pleine de ballades, de chansons, de proverbes, de contes de loups-garous. En dehors du père et de la mère, il y a 5 enfants, en plus de Walter, mais le futur romancier ne va pas s'attarder parmi les siens. Il n'a que 18 mois lorsqu'il commence à souffrir d'un très grave mal de gorge. Une violente fièvre s'empare de lui, qui va le laisser à demi paralysé. Lorsqu'il entre en convalescence, il est si fragile encore que son père et sa mère décident de le confier aux bons soins de son grand-père à la campagne. En dépit de son infirmité, il boite et il boitera toute sa vie. L'enfant va passer là des années très heureuses qui le marqueront profondément. Il s'épanouit dans cette atmosphère agreste. Et les récits des braves gens, si naturels, si simples, emplissent peu à peu sa mémoire de réminiscences historiques ou fabuleuses, d'une terre tout agitée encore du bruit et de la fureur de la défaite des Stuarts. Jamais Scott ne se détachera des racines qu'il a poussées dans un terreau aussi riche. Dès la 15e année, le caractère de Walter Scott peut être tenu pour dessiné fermement. Il est plein d'une vitalité fréquemment agressive, il se refuse à admettre sa déficience physique, littérairement, s'il se passionne peu pour les classiques, il dévore les ouvrages français et italiens. À 17 ans, il entre à l'université, il entreprend des études de droit qu'il terminera en 1792, date à laquelle il devient avocat. Comme le regret persiste en lui de n'avoir pu se faire soldat, il se console en s'engageant dans une sorte de milice composée de volontaires. Cela s'appelle le Royal Edinburgh Volunteer Light Dragoons, ce qui lui donne droit à un magnifique uniforme qui fera plus tard l'admiration de l'hetman Platov, qui, l'embrassant sur les deux joues, lui demandera sur quelle ligne de feu il l'a illustré. Scott à la tête de ses forces de l'ordre, s'était spécialement signalé par sa haine de notre pays. Il avait pris l'habitude d'entraîner ses troupes en les faisant charger à cheval contre des mannequins qui brandissaient au bout d'une pique un navet qui était censé représenter un soldat français. L'amour du cheval était l'un des traits marquants de Scott. Il était avec cela très amateur de grand air, il aimait avec passion la pêche au saumon, un sport qu'il pratiquait avec un harpon. Comment voulez-vous qu'un garçon aussi aventureux ne se soit pas un jour décidé à chasser aussi sur les sentiers de l'amour? Le hasard ayant mis sur son chemin une jeune personne de 16 ans, qu'il a abritée sous son parapluie, en tombe amoureux sur le champ. Et il manque trépassé quand la belle refuse d'accéder à sa demande en mariage, car il ne saurait être question d'une liaison extra-matrimoniale. Scott, de toute façon, s'est vite remis de son insuccès sentimental. La même année, 1797, il s'est pris d'une petite brunette, aux grands yeux noirs, la fille d'un nommé Jean Charpentier, un royaliste de Lyon qui a émigré en Angleterre. Et le marché est vite conclu, un mariage sinon de raison, du moins d'entendement, une union en eau dormante sur laquelle les années passeront sans dommage, bien au contraire. Charlotte, en tout cas, elle s'appelait Charlotte, sera une parfaite épouse pour Walter, bien que jamais ses enfants et elle-même n'aient accordé à leur seigneur et maître autre chose qu'une affection méthodique, avec un sens très poussé de l'arithmétique du budget familial. Scott ne semblait point souffrir. Passivité assez rare tout de même. S'il était réservé avec les êtres humains, Scott n'en était pas moins capable de sensibilité. Je passe rapidement sur les années juridiques au cours desquelles Walter Scott profite de ses loisirs relatifs pour écrire de la poésie. Il n'attend rien d'autre de ses compositions que la sympathie d'un petit cercle de lecteurs. Mais voici que lorsque paraît « The Lay of the Last Minstrel », le lay du dernier ménestrel en 1805, voici que Scott devient du jour au lendemain un héros national. Et curieusement, c'est peut-être en Angleterre qu'on l'admire le plus, davantage qu'en Écosse. Il compte parmi ses enthousiastes le grand William Pitt et la troublante Caroline, princesse de Galles, épouse ennemie du futur souverain George IV. Quand il va à Londres, il est reçu dans les salons les plus fermés, bref, c'est un lion, dont les poèmes suivants, Marmion et La Dame du Lac, ne font que confirmer le prestige. Le succès est tel que Walter Scott peut enfin s'offrir le luxe de s'installer à la campagne avec munificence, dans sa chère zone frontière de jadis. Mais l'étoile de Lord Byron est apparue à l'horizon poétique. Et l'éclat insoutenable des deux premiers chants de Childe Harold, publié en 1812, a fait sentir à Scott qu'un rival de cette qualité ne pouvait que ternir son rayonnement à lui. Et en homme pratique, en bon écossais, il en tire immédiatement la leçon. Il faut renoncer à la poésie et il faut se préoccuper de trouver un autre moyen d'expression. Et le hasard, vraiment le hasard, a voulu alors que Scott, en cherchant dans un tiroir une ligne pour pêcher le saumon, à quoi tiennent les choses, mette la main sur les premiers chapitres d'un roman qu'il avait commencé 7 ans plus tôt et puis qu'il avait abandonné, parce que plusieurs de ses amis à qui il avait lu ces fragments les avaient jugés des plus médiocres. Il se dit tout bonnement qu'il aurait tort de ne pas tenter sa chance. Il complète donc son manuscrit tout en prenant la précaution de ne pas le signer, car il en a honte. Si bien qu'en 1814 paraît anonymement Waverley, qui connaît un succès fulgurant. 3000 exemplaires vendus en une seule semaine. Scott a été rapidement percé à jour. Et ceci ne l'a pas seulement dépité, car il adorait les mystifications, ça l'a réellement inquiété parce qu'il pensait qu'un homme de loi ne doit point se déconsidérer en donnant dans l'amusette. Car pour lui, la littérature a d'abord été une amusette. Quand j'eus découvert et qu'en me distrayant, je distrayais en même temps autrui, je pris la décision de ne plus m'arrêter. Effectivement, Walter Scott n'est jamais plus heureux que lorsqu'il s'assied à sa table de travail et se met, apparemment sans aucune peine, à puiser dans les trésors que son inlassable mémoire a accumulés. Et une autre raison de sa félicité, c'est que l'argent rentre à flot. Les romans succèdent aux romans, et en dépit de leur inégalité, ils ont toujours la faveur du public. Si bien que, petit à petit, Scott s'est mis à dépenser de plus en plus. Il a été atteint par le prurite de la possession de la terre. Il agrandissait son domaine de Abbotsford, se complaisant dans son rôle de seigneur paternaliste autour de qui ne faisaient que graviter des satellites. De plus en plus nombreux, et à sa charge, il avait aussi deux maisons d'édition, la maison Constable et la maison Ballantyne, les deux maisons qui publiaient les œuvres du maître lui-même et de ses protégés. C'était un curieux trio. Ils étaient tous les trois des amateurs, dépassés par le succès de leur entreprise. Scott fournissait le capital nécessaire et quand l'argent frais manquait, il trouvait aisément à emprunter, mais cela voulait dire que de nouvelles aventures devaient surgir de son cerveau. Le principal de ses soucis était la menace de la maladie. Scott menait de front depuis des années une existence de laborieux, mais aussi de bon vivant. Il avait un solide coup de fourchette. Est-ce l'excès de la bonne chère? Est-ce la fatalité? Toujours est-il que, ayant passé le cap des 45 ans, Scott a commencé à être torturé par des douleurs que les médecins du temps ont été impuissants à soulager. La crise a passé. Les hommes de l'art pensent aujourd'hui qu'il devait s'agir de coliques hépatiques. Mais le convalescent est sorti de l'épreuve, vieilli avant l'âge, marqué physiquement et moralement par ces mois et ces mois que seul l'usage à haute dose du laudanum lui avait permis de traverser, et encore en hurlant pendant des heures, que l'opium soit loué, puisque nous lui devons d'avoir donné à Scott la force de continuer sa tâche. Sans le laudanum, il n'y aurait eu ni Lucie de Lammermoor, écrit dans une espèce d'état second, ni même Ivanhoé, dont tout le début a coïncidé avec une phase de quasi-somnambulisme. Hélas, la catastrophe est en marche. Le 17 janvier 1826, tendant la main à un de ses amis qui lui est venu lui faire visite, il lui dit « C'est la main d'un mendiant, je suis ruiné de A à Z ». Les deux firmes, Constable et Ballantyne, en effet, étaient totalement en faillite. Situation qui eut pour conséquence de rendre public officiellement et pour la première fois la paternité littéraire des romans de la suite de Waverley. Les dettes, en y comprenant l'hypothèque prise sur Abbotsford, se montaient à une somme de 130 000 livres, 200 millions d'anciens francs d'il y a 150 ans. Il fait le serment de rembourser à lui tout seul jusqu'au dernier cent, et il sacrifie tout à cet engagement solennel. Et l'émotion dans le pays est grande. De plus d'un côté, on s'empresse de faire dire à Scott que son prestige d'écrivain et de gentilhomme est intact. Ainsi, le roi George IV qui lui fait savoir à quel point il a été ému et combien il désire lui être de quelque utilité. En dépit toutefois de la fidélité de l'appui royal, Scott ne pouvait se dissimuler qu'il était sur la pente du déclin. Il était en proie à de terribles crises de rhumatisme, il perdait toutes ses dents, il avait des maux de tête épouvantables, et plus grave encore, des hémorragies. Avec une énergie indomptable, il n'en continuait pas moins à écrire chapitre après chapitre, soit de romans, soit d'essais critiques, et le public aux merveilles lui restait fidèle. Mais la mort rôdait autour de lui. Après le décès de sa femme, qui le laisse désemparé, un autre coup lui est porté par la disparition brutale de son ami de longue date, l'ancien braconnier devenu son majordome, Tom Purdy. Plusieurs attaques successives lui donnent l'impression de se voir mourir à petit feu. Aux causes de l'angoisse éprouvée par Scott, il faut ajouter les bouleversements politiques qui agitent à cette époque l'Angleterre. Le voici contraint de constater l'éviction du parti conservateur. Le voici même, amertume supplémentaire, obligé d'accepter l'hommage des nouveaux messieurs du parti libéral, qui vient de prendre le pouvoir. Car il a formé le vœu d'aller passer l'hiver dans un climat ensoleillé, et le gouvernement Whig, aussitôt, a proposé de mettre à sa disposition une frégate de la marine de sa gracieuse majesté, qui aura pour mission de le conduire à Naples. Lorsqu'il apprend en mars 1832 la mort de Goethe, qu'il avait l'intention d'aller voir à Weimar, il n'a plus qu'une pensée, rentrer immédiatement en Écosse pour y retrouver l'humus natal. Avant même d'atteindre Londres, il est dans le coma. Pourtant, lorsqu'il franchit le seuil de son manoir de Abbotsford, il a une lueur de résurrection. Il ouvre les yeux et il pousse un gémissement de joie. C'est là qu'il s'éteindra, entouré de ses enfants, de ses amis et de ses chiens, le 21 septembre. L'Europe entière pleurera le grand homme disparu à l'égal d'un autre illustre écrivain anglais, Lord Byron. J'espère que ce rapprochement que je viens d'esquisser entre Walter Scott et Byron ne vous aura pas trop étonné. Le parallèle s'impose. Car s'il n'y avait pas eu entre eux une affinité secrète, il serait proprement incroyable que Scott ait dominé, comme il l'a fait, son siècle, et qu'il ait réussi à donner ses traits essentiels à tout le roman moderne. Sous le vernis trompeur d'un bourgeois snob, d'un conservateur borné, Scott avait en lui une force vitale directement puisée dans l'affleurement d'une couche nouvelle de la société. Cette société écossaise en pleine mutation, passée en quelques années seulement des âges noirs du Moyen-Âge au seuil industriel de la révolution des coutumes ancestrales. Et c'est là sans doute que nous retrouvons Lord Byron et le vrai Walter Scott, c'est-à-dire non plus l'image d'Épinal que le XIXe siècle en a tiré dans son adulation simpliste, mais quelqu'un d'infiniment plus complexe et plus subtil, une personnalité exceptionnellement puissante qui a travaillé à faire éclater les barrières sociales. Le roman de Scott a également été la mise en vedette de héros tumultueux, lançant un défi permanent à l'autorité, des héros gothiques en un sens, et pour lesquels, dans le tréfonds de son subconscient, il avait un penchant inavoué. Plus on y réfléchit, et plus on est conduit à penser que pour que Scott se soit lié d'amitié avec Byron, qui, non content de l'avoir supplanté dans le succès poétique, pratiquait ouvertement l'adultère et peut-être l'inceste, pour ne rien dire de ses activités révolutionnaires, il fallait bien que les deux hommes fussent unis par quelques liens profonds. Et Byron, de son côté, avait été fasciné par Scott, qu'il avait rencontré plusieurs fois. Et dans la lumière de cette dualité essentielle, Scott atteint une stature qui explique le rôle international qu'il a joué. Car dans le monde britannique, d'abord, il a été le porte-parole de l'Écosse. Il a expliqué aux Anglais que si le Royaume-Uni devait enfin mériter son nom, il fallait bien qu'il consente à une reconnaissance de la parité. Mais au-delà des frontières de l'île, par la substitution implicite du potentiel du devenir historique à la sclérose de la fatalité, il a été un précurseur. C'est une autre manière de dire que, à la pesanteur de la tragédie classique, Scott a substitué la dynamique du drame. Et c'est par là que la littérature européenne a pu prendre un nouvel essor. À travers Byron, le libertin en rupture de l'égalisme. À travers Scott, l'outsider plaidant pour sa patrie excentrique. La grande ombre de Shakespeare, père de tous les romantismes, s'est étendue sur le monde. Et le nouveau monde lui-même n'a pu échapper à la contagion. Fenimore Cooper s'ingéniant à créer une littérature autonome, n'a fait qu'imiter le maître d'Édimbourg, et il est juste qu'on l'ait appelé le Scott américain. Une liberté nouvelle de se défaire des impératifs universels du classicisme, en faisant confiance à des vérités nouvelles parce que particularistes. Un droit de cité reconnu aux extravagances d'un comportement non avalisé par la règle dominante. Voilà, je crois, ce qu'a été le testament intellectuel de Walter Scott. C'est en exaltant nos dissemblances, a-t-il pensé, que nous aurions le plus de chance de nous rapprocher les uns des autres et d'accéder ensemble à ce lait shakespearien de l'humaine tendresse qui est le meilleur de notre lot ici-bas.
C'était les grandes conférences Walter Scott, une gloire européenne, par Raymond Lasvergnas. Première diffusion sur France Culture le 17 août 1971. Vous pourrez télécharger cette émission durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.